Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
On le sait, Libération est née de la mouvance maoïste sous l'aile protectrice de Jean-Paul Sartre et de quelques autres intellectuels de premier plan. Son premier numéro est paru en février 1973. Aujourd'hui, plus de 40 ans après, hormis celui de Serge Julie, les noms de ceux qui œuvrèrent pour qu'il voie le jour sont largement ignorés de ses lecteurs. Parmi ses pionniers fondateurs, on trouvait en première ligne Jean-Claude Vernier et Jean-René Huleux. C'est eux que l'on va entendre raconter dans un numéro de Grand Angle de 1993 ce qu'avait été la création de Libération. Le Libération de 1993 n'avait que 20 ans, mais déjà il n'avait plus grand-chose à voir avec celui de 1973. Jean-Claude Vernier et Jean-René Huleux racontaient à Marie-Odile Delacour dans quelles circonstances, de quels désirs, de quels rêves et avec quels moyens était né ce quotidien. Ce qu'avaient été les premiers jours, les premiers mois de son existence et les premières fissures de cette aventure collective. Grand Angle, 1973, la naissance de Libération ou les limites du rêve, avec Jean-Claude Vernier, Jean-René Huleux, Claude Mauriac, Maren Selle, Jean-Christophe Nautias et la voix de Jean-Paul Sartre. Une émission diffusée pour la première fois le 22 mai 1993.
Grand Angle, 1973, la naissance de Libération ou les limites du rêve. Marie-Odile Delacour.
Comme nous sommes dans une période, je ne vais pas vous entreprendre l'analyse du capitalisme, de l'aliénation, de l'hébétude, etc. Dans une période où l'esprit public est amorti, au sens le plus sinistre, il y a mort dans amorti, il faut quelquefois, pour le réveiller ou pour le ressusciter, y aller plus fort que s'il était libre et dispo. Ça, incontestablement, il y a une marge d'excès nécessaire. Mais pourquoi nécessaire? Pour retrouver la juste mesure dans les faits.
L'achèvement et la signature de l'accord sur la cessation de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam sont le couronnement de 13 années d'une vaillante lutte que mène le peuple vietnamien contre l'impérialisme américain et un groupe de traîtres dans le pays.
J'ai complètement quitté les milieux bourgeois et les institutions bourgeoises. Si je parle ici, c'est, comme je vous le dirai plus tard, parce que j'ai un but précis. Mais en principe, non, je suis totalement opposé à toute forme d'institution et de gouvernement bourgeois. Je suis également avec la jeunesse, non pas pour elle, mais avec la jeunesse, c'est-à-dire je travaille avec elle. À l'heure qu'il est, la jeunesse contestataire porte en elle quelque chose de neuf et la possibilité ou la promesse d'une société neuve. Donc, je suis avec elle.
Le pouvoir espérait nous mettre à genoux simplement en occupant l'usine. Mais ce qu'il ne sait pas, ce sacré pouvoir, que l'usine est là où est où jouaient les travailleurs. C'est pas des murs, l'usine. C'est
1973. Aux États-Unis, le président Nixon met un point final à la guerre du Vietnam. Au Moyen-Orient, la crise du pétrole commence. En Europe, la Belgique, l'Irlande et le Danemark entrent dans le marché commun. Pablo Neruda meurt. 1973. En France, Georges Pompidou est président de la République. Le lycée Payron brûle à Paris. Les ouvriers de Lippe occupent leur usine à Besançon. Les paysans du Larzac luttent contre l'armée. Les femmes sont dans la rue pour la liberté d'avorter. On donne le dernier tango à Paris dans les salles de cinéma. Les infirmières font la grève. Les lycéens se mettent un entonnoir sur la tête pour protester contre la loi Debray. Fernand Reynaud meurt. La presse quotidienne en crise obtient des subventions exceptionnelles du gouvernement. Après une grève dure, le journal Paris Jour vient de disparaître. Libération naît sous la forme d'un numéro spécial au début du mois de février. Un quotidien différent, lancé sans argent, pour rendre la parole au peuple. Une idée folle à laquelle ne croient que les rêveurs. Pourtant, ces rêveurs se montrent si nombreux qu'ils envoient des chèques et qu'un jour de printemps, après bien des péripéties, Libération débarque sur le pavé de Paris. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange. 20 ans après, les deux inventeurs de l'idée de Libération, Jean-René Huleux et Jean-Claude Vernier, se rencontrent et se souviennent.
L'APL, l'agence de presse Libération, naît au début de l'année 71, une période dans laquelle les rapports entre la presse et le pouvoir politique, gaulliste à cette époque, sont très violents, très conflictuels. Des titres sont interdits, Harakiri, La cause du peuple. Les journalistes ont des difficultés de travail dans leur rédaction. Donc tout le mouvement de mobilisation des journalistes fait que d'un côté, il y a des journalistes comme par exemple ceux de la CFDT, de l'Aurore, qui est un journal de droite, où ils ont des difficultés à dire ce qu'ils veulent dire, il y a des informations qu'on ne leur laisse pas passer. Des journalistes de l'agence France Presse également. Et puis cette conjonction avec le gauchiste que j'étais à l'époque, qui était lui aussi passionné par l'envie de dire les choses cachées. Voilà. Donc l'agence de presse Libération, au départ, c'est ça, avec évidemment une volonté, une intention des journalistes, et en même temps les méthodes de l'époque, puisque l'agence démarre avec une Roneo dans la chambre de ma fille. C'était les moyens que nous avions à l'époque.
J'avais pas débuté dans le journalisme en suivant à la trace les chevaux de course. J'avais débuté dans un quotidien du Parti communiste à Nice, que j'avais quitté en 62 à la suite de désaccords profonds avec la ligne politique. Et je m'étais abattu sur les courses épiques un peu par passion et un peu par dérision. Et là, j'étais dans un état d'esprit, je commençais à réfléchir et à penser qu'on pouvait changer la pratique du journalisme, en fait. Et je me demandais, avec angoisse, dans quel journal j'allais bien pouvoir travailler. J'avoue que le Nouvel Observateur ne me tentait pas tellement. Un retour à l'humanité, il n'en était plus question depuis longtemps, puisque entre-temps, il y avait quand même eu 68, qui nous avait permis de prendre quelques distances par rapport à tout ça. Et bon, il y avait effectivement cette crise, non pas économique, de la presse qu'à l'époque on appelait encore la presse bourgeoise, mais je crois une crise énorme d'intelligence. Moi, je pense que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était dans une manifestation, justement, qui faisait suite à l'affaire Jobert. Ah, il faut rappeler pour mémoire que Jobert était un journaliste qui s'est fait tabasser dans un car de police. À l'époque, c'était des méthodes qui étaient relativement courantes. Et donc, il y a une manifestation, je pense, devant le siège du Figaro. C'est la première fois que j'ai rencontré Jean-Claude. Mais j'avais déjà reçu dans ma boîte aux lettres, ça prouvait qu'ils étaient assez bien organisés, les bulletins de l'APL. Et j'avais regardé ça. Sur le plan professionnel, je dirais, ça ne m'avait pas vraiment convaincu, mais j'avais trouvé la tentative sympathique. C'était donc en 72, puisque pour moi, l'histoire de Libération commence en 72, c'est-à-dire 4 ans après 68. 68, beaucoup de journalistes se sont retrouvés à la Sorbonne, et pas seulement pour assister aux séances homériques du grand amphithéâtre, mais aussi pour y faire des choses ou pour y témoigner de quelque chose. Et puis toute une histoire qui a suivi.
Donc vous vous rencontrez, il y a une jonction de vos réflexions personnelles et collectives pour l'APL, autour de l'APL. Vous avez ensemble envie de faire un journal.
Oui, c'est ça. C'est pas moi l'APL, je trouvais très sympathique, mais quand j'allais les voir, parce qu'à l'époque, ils étaient plus dans la cuisine de Jean-Claude ou dans la chambre à coucher de sa fille, ils avaient pignon sur rue, ils avaient déjà un local assez somptueux, mais je les trouvais un peu tristounets, il faut dire ce qu'il y a, c'est-à-dire qu'ils avaient le style militant, gros godillot, veste de bleu ou noir, enfin bon, ils jouaient assez facilement le style ouvrier. Et bon, moi j'avais un projet de journal. Et le départ, l'idée centrale, c'était le Grand Magic Circus. Donc c'était quand même assez éloigné de l'APL. Et je me disais, il y a le Grand Magic Circus qui tourne avec son spectacle. Et ça serait bien de faire un journal qui tourne et qui aille sur l'événement.
Je proteste, il n'y avait pas de godillot ni de bleu de chauffe. Mais ce qui était drôle, c'était la capacité de rencontre. Vous savez, aujourd'hui, avec tous les gens de notre génération qui ont croqué un peu de tous les bénéfices du PS, qui sont même allés jusqu'à appeler à voter Georges Marchais, on présente un peu les militants de cette époque comme des gens tristounets, des espèces de curés, Mao, qui ne pensaient qu'à la lutte, qu'à ceci, pas du tout. On pensait au cul comme tout le monde, on pensait à la lutte, et on était capable de faire ce type de rencontre. Moi, militant de formation scientifique, alors peut-être avec des godillots et des bleus, en tout cas Tristounet, ça c'est sûr, et Jean-René, qui débarquait, lui, avec ses costards Saint-Laurent, son Alfa Romeo, rédacteur en chef de Week-end.
C'était le prototype du Don Juan, dit-on.
Voilà. On était capable de se voir et de faire des projets ensemble. Mm-hmm. Donc c'est une époque d'aventure. C'est pas du tout je la revendique toujours autant parce que l'aventure était quelque chose de vivant. Et entre le costard Saint-Laurent et le bleu de chauve, on était capable de discuter de la vie, du sexe, de l'actualité et de monter des projets qui étaient des projets cinglés. Et l'idée du journal quotidien, on s'est toujours bagarré entre Jean-René et moi pour savoir qui avait eu l'idée. Je pense que c'est lui pense que c'est moi. Peu importe. L'idée était là. Et l'idée de le faire de façon vivante, à chaud, sur l'événement, c'était l'idée de Pirate. Il se passe quelque chose, au départ une grève aux Nouvelles Galeries de Thionville. On y va, avec une camionnette, avec une Roneo, et on essaie de faire un journal sur place.
Vous étiez combien ?
4 personnes.
Pour être plus précis, il faut dire qu'il y a eu 2 numéros de Pirates. Le premier, le choix du théâtre de l'événement et de l'événement lui-même était très très discutable, puisque c'était le meurtre d'une petite fille à Bruyères-en-Artois. Et qu'autour de ça, les militants de la cause du peuple ont fait tout un remue-ménage. Il y avait dans les accusations qu'ils portaient contre le notaire, le roi, des choses qui étaient quand même difficiles à digérer. Bon, ce qui nous a intéressé là, c'est vraiment la liaison avec les gens qui avaient vécu ce traumatisme, puisque la jeune fille assassinée était une fille du coron. Et évidemment, on a fait quelques erreurs, mais on n'a pas fait les mêmes erreurs que faisaient les militants de la cause du peuple dans leur propre journal. Et ça nous a donné envie de continuer. Et le deuxième numéro, c'était sur une grève sauvage qui s'est déclenchée dans les Nouvelles Galeries de Thionville, qui était majoritairement une grève de femmes. Et là, je dois dire que ça a été une réussite absolument totale, parce que je suis sûr qu'on a réussi à les aider à prendre la parole. Et en fait, c'était ça le projet de Libération, et c'est pour ça qu'il s'est appelé Libération. Parce que Libération, c'était libérer la parole. Et c'était ce à quoi on croyait, et ce à quoi je crois toujours, c'est-à-dire qu'au moment où les gens arrivent à parler, eh bien, la solution est presque trouvée.
J'ai retrouvé en relisant les mémoires de Claude Mauriac le compte-rendu, je pense, j'espère, assez fidèle d'une première réunion constitutive de Libération le 6 décembre 1972. Donc Jean-Claude Vernier, vous étiez militant maoïste. Vous aviez comme chef, puisque telle était sa fonction officielle et acceptée par tous, Pierre Victor. Pour réaliser votre projet de journal avec Jean-René Huleux, il vous fallait... Pensiez-vous, je suppose, l'assentiment de Pierre Victor? Pourquoi fallait-il que les maoïstes soient impliqués dans cette histoire?
Non, il fallait surtout que ce journal ait une force dynamique.
Oui.
Et à l'heure actuelle, disons que c'était le mouvement contestataire dans son ensemble, et pas seulement les maoïstes, le mouvement contestataire qui avait besoin aussi d'une forme d'expression. Je voudrais quand même resituer un petit peu les choses. Juin 72, c'est le moment aussi où le terrorisme commence à faire des ravages, en Italie, en Allemagne, au Portugal, et on n'était pas totalement cinglés. On venait de dissoudre l'organisation maoïste, la gauche prolétarienne, parce qu'on s'était aperçu que potentiellement, je simplifie, mais potentiellement ça devenait un petit organisme rigide et on n'était pas loin du terrorisme. Donc dès le départ, dans l'idée du quotidien, il y a cette idée explicite de mobiliser les énergies sur autre chose que des bombes.
Je peux préciser là que j'ai demandé à Pierre Victor de l'époque, Benny Lévy aujourd'hui, de témoigner dans cette émission. Et il a refusé de parler, ça ne l'intéresse plus aujourd'hui. Mais il m'a dit que Libération était conçue pour lui comme une stratégie de dissolution pour éviter la violence et le terrorisme.
Ah oui, ça c'était explicite. Et c'est là-dessus finalement que j'ai pu le convaincre. Parce qu'au départ, la réaction de l'ensemble, de tout le monde, c'était... était totalement cinglé. Il n'y avait pas un sou. On se souviendra, le premier local de Libé, je l'ai loué avec un chèque personnel pas très honoré. Bon, donc c'était une idée de fou. Et il fallait pour ça remplacer l'argent par les énergies. Les énergies, elles étaient dans ces groupes-là.
Ouais, moi, je dirais plutôt que c'était implicite. Et c'est parce qu'on est rentré dans un processus de dissolution qu'on a loupé notre coup. Parce que pour moi, Libération reste un échec. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est comme ça. Parce qu'évidemment, le journal tel qu'il est aujourd'hui est exactement à l'inverse de celui qu'on voulait faire à l'époque. Et je trouve que Benny Lévy, qui est un homme d'une très grande intelligence et qui s'intéresse aujourd'hui à des choses très profondes et que j'admire beaucoup, porte une grave responsabilité de cet échec. Mais moi, à l'époque, j'étais encore marxiste, et c'est évidemment la deuxième raison de mon échec à Libération, c'est-à-dire que ça m'empêchait de voir les choses clairement, puisque je voyais ça à travers les grilles de la dialectique. Et je me disais que créer un journal d'information quotidien qui allait devenir important, qui allait donner la parole aux gens qui ne l'avaient jamais, il fallait forcément une direction politique. Quand on dit Mao, on ne comprend rien, parce qu'il ne sortait jamais le livre rouge, et Mao, c'était déjà une manière de sortir du communisme. Je partageais ça avec eux, et surtout l'anticommunisme PCF, qui avait fait échouer, à notre avis, le mouvement de 68. Et donc, voilà, moi, j'étais d'accord sur cette stratégie, mais en même temps, c'est vrai que, d'une certaine manière, je pense qu'elle a été fatale au projet de libération tel qu'on l'avait au départ.
Claude Mauriac, vous étiez à l'époque écrivain, collaborateur du Figaro. On a du mal aujourd'hui à se représenter les motifs qui vous ont rapproché de ceux qu'on appelait les gauchistes à l'époque.
Oui, vous savez, le passage, je n'étais pas tellement d'accord avec le Figaro. J'étais de cœur à gauche. Et ça s'est fait d'une façon... Même j'étais en relisant ce que j'en ai écrit, j'étais très étonné de voir que j'étais là, étant encore au Figaro, que j'ai quitté par la suite. Mais vous savez, c'est un phénomène d'époque où il y a une espèce de contagion. De loin, cette 68 et surtout la suite nous paraît complètement un peu dément, parfois même ridicule. Mais n'empêche que ça a donné les bandes à Bader et les brigades rouges, et que ça aurait pu virer comme ça. Quand je lis le témoignage que j'ai laissé de cette première réunion où a été fondée Libération, qui se passait dans les locaux de l'agence de Clavel, l'agence Libération, France-Presse Libération, eh bien, je suis étonné de ce qu'on pouvait dire à l'époque, de ce qu'on pouvait penser à l'époque, en toute bonne foi, des gens remarquables comme Sartre, comme Clavel, comme Foucault, etc. Quand je les entends vouloir remplacer la justice par celle du peuple, je suis stupéfait. Moi, j'étais sauvé par le fait que je suis très raisonnable, violemment contre la violence. Donc, j'ai toujours été un peu en retrait. Il y avait une espèce d'intoxication. Même, c'était 72, ça devenait dangereux, ça devenait très dangereux. Et la question pourquoi ça n'a pas viré, c'est à cause de Clavel, c'est à cause de Gessmar et des autres qui ont été raisonnables. Mais enfin, ça aurait pu... En tout cas, ils ne m'auraient pas emmené avec eux. Moi, je n'ai jamais été Mao. Mais c'était pas possible que ce soit un journal qui émane directement de la classe ouvrière pour faire la révolution. C'est contradictoire avec ce que doit être la presse, un journal.
Vous avez dit une jolie chose à ce propos-là. Ils rêvent à un monde parfait, ils ne savent pas que c'est un rêve. Hein. Vous disiez ça à cette équipe.
C'est l'utopie dont je vous parle.
Mais dans le fond.
Vous voyez, ils étaient pas d'une naïveté, ils étaient dans un rêve, oui. Dans un rêve collectif à laquelle j'ai participé, en tout cas moi-même, en 68, où j'étais tout à fait... C'est un phénomène que vous ne pouvez pas imaginer ce que ça a été. Aujourd'hui, ça paraît un peu absurde et ridicule, bien qu'il y ait des tas de choses qui sont nées là, qui tiennent toujours, hein, aussi bien sur les femmes que sur les homosexuels, ou bien d'autres questions. Mais ça se passait en même temps en Italie, ça se passait en même temps aux États-Unis, même avant. C'était l'air du temps qui était chargé. Alors là, on y croyait. À quoi? On ne savait pas.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety, no surprise, the end.
extrait du manifeste pour la parution du quotidien Libération. Cet appel est lancé par les maoïstes qui n'ont jamais dissimulé qu'ils voulaient permettre au peuple d'écrire dans sa langue un socialisme libre. Avec des journalistes qui ont lutté contre la censure, ils prennent l'initiative de ce quotidien. Le journaliste de Libération s'informe dans les cités ouvrières, les quartiers populaires, les villages, parce qu'il y vit et qu'il connaît les gens. Il s'informe dans les cafés, juste avant l'embauche. Pour lui, plus on monte dans l'échelle sociale, moins on trouve l'honnêteté. Aucun de nous n'est partisan du socialisme autoritaire. Nous sommes unis par une commune orientation fondamentale. Nous appelons tout le monde à soutenir Libération, qui sera comme une embuscade dans la jungle de l'information. Jean-Claude Vernier.
L'idée était, en gros, une sorte de journal à l'envers. C'est-à-dire, le journal traditionnel, hiérarchisé avec sa rédaction, ça ne fonctionne pas. Donc si on veut essayer de dire les choses autrement, essayons de faire en sorte que la rédaction soit un lieu de mise en forme, mais que le lieu de récolte de l'information, de formation, soit une espèce de rédaction éclatée dans l'ensemble du pays, avec cette idée de faire ce qu'on appelait les comités Libération, qui étaient à la fois des comités de rédaction locaux, dans leur théorie, et à la fois des comités de distribution du journal. Donc, d'éclater un petit peu de cette structure et de faire de la rédaction centrale le pivot organisateur de l'ensemble. En même temps, essayer de trouver autour de soi une série de collaborations qui apportent de l'air. Par exemple, même si ça n'a pas marché, c'était l'idée qui conduisait à solliciter des gens comme Foucault, Clavel, Mauriac, etc.
Sartre.
Ou Sartre, bien entendu, comme directeur, puisqu'il était symboliquement le directeur des journaux interdits.
Très vite, moi, j'ai trouvé que les réunions des comités de libération étaient une sorte de grand défouloir et que ça tournait systématiquement au psychodrame où le but était d'injurier les pères fondateurs et à la fois fondateurs du journal et responsables de la dissolution du mouvement gauchiste. Donc, pour moi, je n'y ai jamais trouvé... C'était très intéressant d'un point de vue clinique et je pense que quelqu'un comme Michel Foucault qui a assisté à ces réunions en a tiré beaucoup d'enseignements. Mais moi, sur le plan journalistique, ça ne m'apportait rien, ça ne me permettait pas de faire mon métier mieux que je le faisais. Je savais la nécessité du professionnalisme. Ça aurait été fou d'improviser un quotidien. Et je savais le temps nécessaire que ça demanderait. Et donc, moi, je voulais que Libération commence avec une équipe de journalistes professionnels, au moins une douzaine, si ce n'est pas 20. Et nous avons réuni dans un local, les journalistes sympathisants du projet de Libération, que Jean-Claude connaissait mieux que moi, puisqu'ils avaient collaboré plus ou moins avec APL, et Benny Lévy leur a lu ce manifeste. Bon, il y a eu un grand foie dans l'assistance, et depuis, nous n'en avons jamais revu aucun. Donc, je me suis retrouvé l'un des trois professionnels du journal pour fonder un quotidien. Et on a été obligé de faire Libération avec des gens qui venaient à cet endroit, soit pour militer, soit pour rentrer dans une école de journalisme, soit pour faire une bonne œuvre. Enfin bon, et évidemment, ça a été une aventure assez extraordinaire. Et en plus, on avait, et c'est vrai, on l'avait demandé, et je l'avais demandé moi en particulier, une direction politique qui nous sortait des objectifs et des dates de parution absolument aberrantes par rapport aux problèmes techniques.
Pour nous, il était indispensable que la technologie soit une technologie de pointe. Libération, en 72, avait équipé toutes ses rédactions régionales de fax. Il y a 21 ans de ça, alors que le fax était quand même très peu connu. Donc, une avance technologique, qui est devenue finalement aussi une caractéristique de l'époque. On sait très bien que si on veut favoriser l'expression, il faut se doter des moyens technologiques les plus avancés pour avoir le moins possible à penser à la technique et à s'occuper du contenu.
Février 22, 001. Maurice Clavel signe l'éditorial dédié à Pierre Auvernet. Libération annonce que les journalistes sont peu nombreux et payés 1200 francs, comme les OS de la région parisienne. 6 mars, numéro 002. À la une, on rase la prison de la Roquette, avortement, briser l'isolement. 14 mars, numéro 003, première petite annonce. À vendre, Caravelle 1965, 4 places, moteur récent, frein neuf, 1700 francs, s'adresser au journal. 28 mars, numéro 004, chaud, 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 le printemps sera chaud, 200 000 lycéens ont manifesté en France. Marensel.
J'étais arrivé d'Allemagne en 68 et j'avais des contacts avec le mouvement étudiant en Allemagne. Et ce qui intéressait le service international de l'APL, c'était d'avoir des correspondants en Allemagne, donc des militants comme nous, qui nous informaient des autres luttes, enfin les luttes dont les grands journaux ne faisaient pas écho. Alors je me rappelle quand le projet d'un journal a surgi, dans cette équipe très soudée et très, très modeste dans ses ambitions de l'APL, c'était un conflit assez douloureux, c'est-à-dire il y avait des gens qui devraient rester à l'APL, qui d'ailleurs a été dissous peu de temps après, et d'autres qui étaient parmi les élus, entre guillemets, enfin ceux qui avaient droit donc de participer à la nouvelle rédaction de Libération. Et enfin comme ça des discriminations ou une hiérarchie qui était parfaitement inexistante avant, tout d'un coup est apparue. C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait parmi nous des gens qui étaient plus ou moins journalistes? Bon. Et c'était assez douloureux. Non, j'étais là vraiment tout à fait au début. On était dans les locaux qui étaient parfaitement dégueulasses. Enfin, de toute façon, on était tous... on n'était absolument pas habitués à aucun confort. Et enfin, moi, j'aime personnellement beaucoup l'ambiance d'un journal. J'avais travaillé un tout petit peu en Allemagne dans les journaux, enfin, en tant que stagiaire. Et là, ce qui était formidable, d'ailleurs, c'était un engagement illogique, c'est que il ne devait pas y avoir d'hierarchie à l'intérieur du journal. C'est-à-dire, la fabrication était au même endroit, la photographie au même endroit, les claviers au même endroit, avec la rédaction, et en principe, enfin, tout le monde devait avoir le même statut. Hein, c'était prononcé comme ça, et le même salaire au début. Je me rappelle une fois la visite de Foucault, alors qu'on pensait lui montrer un ensemble parfaitement démocratique et non hiérarchisé. Et quand il est arrivé, il était sur le seuil, il disait « mais voilà, c'est la reproduction de ce qu'on connaît déjà, parce que la fabrication est en bas, la rédaction est en haut. » Voilà.
Should I listen to my own mind? You know you can't hold me forever. I didn't sign up for you. I'm not a present for your friends to open. This boy's too young to be singing the blues.
Quelles étaient vos fonctions respectives dans le journal qui se monte et qui étaient les gens qui étaient avec vous?
Mais alors moi j'ai un petit regret parce que je m'étais un peu dégonflé au point de vue éditorial et j'avais pris comme responsabilité toute la question justement du plan technique qui était primordial puisqu'il fallait bien physiquement imprimer le journal. Donc à partir de la fabrication... jusqu'à la mise en page, au titre, au secrétariat de rédaction.
Et Jean-Claude Vernier,
moi j'étais le premier gérant, enfin co-gérant avec Sartre, et puisque Sartre commençait déjà à être assez malade et ne pouvait pas y être physiquement présent, donc je m'occupais de la gestion, de l'administration et puis surtout de la recherche des financements.
On a monté une SARL, si je me souviens bien. Nous étions 4 actionnaires. Donc Jean-Claude Vernier, Sartre,
Maurice Clavel
et toi.
Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours oublié le quatrième, c'est Clavel que j'avais oublié. Et puis peu de temps après, parce que l'équipe commençait à se constituer, s'est posé le problème de la rédaction en chef, bien entendu. Moi, j'espérais que ce soit Benny Lévy qui intervienne directement.
Pourquoi ? C'était un journaliste ?
Non, mais c'est un homme d'une prodigieuse intelligence. Et ce n'est pas ce qui s'est passé, parce qu'il était occupé à des choses qui lui paraissaient plus importantes, en particulier dissoudre son mouvement, mais ça, je pense que c'était effectivement très important. Et il nous a donc délégué quelqu'un qui est arrivé, moi, que j'avais rencontré une fois à Bruyères-en-Artois, et ce quelqu'un, c'était Serge July. Et dans la première... Alors, on a fondé au début une rédaction en chef collective, ce qui était bien sûr déjà une aberration par rapport au journalisme. Et je crois qu'à nouveau, on s'est retrouvés à quatre. Alors moi, je me souviens qu'effectivement, à ce moment-là, Jean-Claude n'avait plus de gros godillots ni de bleu de chauffe. Il a même trouvé des crédits pour s'acheter un costume, trois pièces, une chemise et une cravate. Et il est parti avec un porte-document sous le bras. Et il est allé tirer les sonnettes pour chercher le financement de Libération. En tout cas, moi, c'est l'image que j'en avais à l'époque.
C'est vrai qu'il m'est arrivé de traverser Paris dans le métro avec un sac en plastique dans lequel il y avait 300 000 francs de l'époque en billets de banque, qui a été regroupé par un certain nombre de personnes. Voilà, ça fait partie de cette aventure financière. Mais cette aventure aussi, qui n'est pas seulement une aventure de quelqu'un qui va chercher, qui va tirer les sonnettes. Il y a aussi des gens qui y croient. On a un banquier qui y croit à cette époque, contre sa direction. Le malheureux, il va le payer très cher. Il se retrouvera 2 ans plus tard dans une succursale à Clermont-Ferrand. Et puis, il y a eu aussi le cas de gens qui se sont énormément investis jusqu'à venir travailler au journal, donner un peu d'argent qu'ils avaient, et très rapidement quand même assez déçus, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver leur place. Ça a été le cas de Clavel. Le costume, c'est pas moi qui me l'étais payé. Clavel m'avait payé un costume en disant « tu peux pas y aller en col roulé ».
Maurice Clavel a mis de l'argent dans l'affaire ?
Sur un costume, oui.
Oui.
Et puis ensuite, il s'en est détaché assez rapidement, parce que Clavel n'aimait pas la censure, on sait bien. Il a fait 3 tentatives d'articles pour Libération. Les 3 ont été charcutés. Le dernier, je crois, n'est même jamais passé. Donc il a dit « je vous laisse vivre votre vie, mais j'ai pas envie de participer à ça ».
Qu'est-ce que Jean-Paul Sartre a apporté à Libération, Jean-Claude Vernier ?
Jean-Paul Sartre ? C'est-à-dire à la fois les rêves de toute une série de générations, une mobilisation, et puis une intelligence dans la réflexion de l'événement, de la façon de conduire sa vie au milieu des événements politiques, avec les échecs et les réussites, et certainement l'obligation en tout cas d'être propre. Parce que c'était un monsieur en face duquel on ne racontait pas beaucoup de bobards.
Sartre, c'était pour moi un facteur de énorme de crédibilité. Et évidemment, la présence de Sartre nous a au moins, si ce n'est pas ouvert, entrouvert les portes des médias, et nous a permis de faire connaître l'existence du projet avant même l'apparition du journal.
Jean-Paul Sartre, 7 février 1973.
Je ne pense pas que notre quotidien doive être simplement, avec les autres quotidiens, dans un rapport de concurrence. C'est vraiment un rapport de lutte sociale, parce que nous ne concevons pas l'information comme la plupart des quotidiens français la conservent.
Vous les êtes en marge, tout à fait.
Pas du tout, je veux, au contraire. Je vais vous dire, nous voulons d'abord qu'il n'y ait aucune chance d'agir sur nous, de faire des pressions. Donc, il y a 2 pressions qui sont connues sur les journalistes, c'est les capitaux, ceux que des privés ou des banques aux meilleures dispositions.
Vous serez obligé d'avoir de l'argent pour faire votre
oui,
journal.
Mais attendez, je vais vous dire comment.
Comme les autres.
Et la publicité. La publicité, immédiatement, vous ne pouvez plus dire la vérité sur des produits, puisque ce sont les gens qui font ces produits-là qui vous donnent de l'argent. Donc,
d'où viendra votre argent ?
Du peuple. Nous recevons actuellement environ 5000 francs par jour.
5000 francs nouveaux ?
5000 francs nouveaux. 500 000 francs, si vous préférez. Par jour, par billets de 1000...
Et quels sont les donateurs ? Vous savez d'où vient cet argent ?
Mais ce sont des gens, oui, ils donnent leur adresse, ils donnent leur nom. Ce sont des gens qui veulent qu'un journal libre, comme nous disons, et un journal populaire paraissent, et qui sont, donc, qui estiment que ce que nous faisons peut marcher. Je veux qu'il soit bien dit que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour ce journal. Et ce journal ne me paraît pas simplement un journal du journalisme. Faire parler les gens. Et vous, j'ai fait des meetings en province, à Lille, à Lyon, sur ce journal, qui était très émouvant. C'était de voir des ouvriers, des infirmières de l'hospice de vieillards, des choses comme ça, venir nous dire, est-ce que vous direz ça? Nous essayons de faire passer telle information dans les journaux de notre pays, du Nord ou bien du Lyonnais. Et nous n'y arrivons pas. Telle chose a eu lieu, n'y arrivons pas. Et ce qu'elle disait était émouvant. Et nous pensions que ça, en effet, c'était ça qu'il fallait. Quant à réussir, on verra.
Alors, vous n'avez pas un centime. Comment vous faites pour commencer, pour tirer le numéro zéro?
Comment on fait?
Au moins, on m'a parlé d'un coup de bluff. Est-ce que c'est vrai?
Là, nous sommes au seuil de l'année 73. Et la parution du journal est fixée à février pour être prêt pour les élections législatives, je crois. Et bon, dans les discussions, j'avais fixé une sorte de minimum de financement, et on était tombé d'accord sur 70 millions. Donc,
il s'agit de centimes.
De centimes de francs de l'époque, c'est des anciens francs. Et il n'était pas question de commencer sans ce matelas rassurant de 70 millions. Et un beau jour, dans une réunion, Jean-Claude a annoncé fièrement que les 70 millions étaient réunis. Et donc tout le monde s'est remis, a redoublé l'énergie au travail et on a préparé la sortie de Libération. Malheureusement, quelques jours plus tard, le bluff s'est dégonflé et on a appris qu'au lieu de 70, il y en avait à peine 20. Donc on est parti comme ça. On a bénéficié d'une certaine manière d'encouragement aussi de gens de la profession. Je me souviens en particulier les gens auprès de qui on avait acheté les machines de photocomposition, qui nous ont fait des crédits assez longs. L'imprimeur qui a accepté de se mouiller. Enfin, il y a eu des concours comme ça qui nous ont permis de démarrer.
En tout cas, ce que je peux dire, pour ma défense, si j'ai arnaqué Jean-René, c'est de bonne foi, parce que effectivement, il y avait beaucoup de gens qui promettaient de l'argent, qui, au moment de le verser, ne le faisaient pas. Et puis, personnellement, je suis quand même quelqu'un qui a souvent tendance à prendre les désirs pour des réalités. Mais j'y croyais énormément. Sauf que au moment où il s'agissait de payer...
C'est une question de foi, en fait, Libération.
C'est une question de foi, voilà.
Les rapports de Libération naissants, du début, sont difficiles avec l'argent. On parle beaucoup d'un gestionnaire un peu particulier, Bernard Lallemand, vous en souvenez-vous?
Oui, alors ça c'est aussi une des manières de prendre ses rêves pour des réalités. Bernard Lallemand est un personnage étrange qui arrive un jour et qui dit « j'ai des capacités de gestion, votre projet m'intéresse, je veux le faire ». Il était enseignant à Dauphine, dans le domaine financier, et effectivement il commence à avoir des méthodes de gestion tout à fait étonnantes puisque ça marchait. En particulier une capacité de négociation avec les fournisseurs et avec les banques qui était quelque chose d'extraordinaire. Et ce personnage prenait conseil de son père. Chaque fois qu'il y avait un problème difficile, il téléphonait à son père pour lui demander son avis. Et le père répondait. Et puis, quelque temps après, on s'est aperçu que le père était mort depuis une vingtaine d'années. Donc il y avait cette espèce de fantasme qui rendait les choses opérationnelles. Ça marchait, ça finissait par... effectivement, il n'y avait pas l'argent, mais on arrivait à sortir. Il y avait un mythomane, mais il arrivait à gérer d'une façon qui était hyper efficace, puisqu'il trouvait même des solutions extrêmement originales. Et en même temps, toute une rédaction qui rêvait et qui finissait par fabriquer un journal.
Finalement, l'argent est arrivé.
Alors là, il y a un vrai miracle.
Oui.
C'est qu'à partir du moment où Libération paraît, sans qu'on le demande, ce sont les premiers lecteurs qui vont le financer. Parce qu'on n'avait pas osé lancer une souscription, ça ne nous paraissait pas honnête. Et à l'apparition des premiers numéros, qui avaient encore une, si je ne me trompe pas, une temporalité un peu irrégulière, c'était pas 5 jours sur 7, les lecteurs intervenaient et disaient « mais il faut que ce journal continue », et puis on a commencé à recevoir, comme on disait à l'époque, les petits chèques, et puis très rapidement, c'était des sacs postaux entiers. Et bon, finalement, on s'est décidé à lancer la souscription, et c'est entièrement par la souscription des lecteurs que les premières années de Libération, bien au-delà des débuts, ont été financées.
Pour donner des chiffres, en 6 semaines, 800 000 francs sont arrivés, 800 000 francs de l'époque, donc 73. Et c'est une souscription d'une force plus grande encore que celle qui avait permis au monde de vivre après la libération. Donc, les énergies étaient là. Les lecteurs étaient là. Et c'est vrai que ce rêve fou, qui n'a pas pu être réalisé, avait quand même mobilisé des milliers de personnes, ou en tout cas de bonnes centaines, je crois qu'il y a eu 5000 chèques, autour de ça.
On avait l'impression que les gens avaient saisi l'essence du projet de libération et qu'ils avaient saisi l'importance de l'enjeu, c'est-à-dire qu'ils avaient compris qu'il y avait une possibilité de libération dans la prise de parole. Et ça nous donnait une responsabilité énorme. Et je dois dire que par rapport à ça, j'ai souvent été navré parce que au bout de 2 ou 3 mois de parution, le journal avait déjà très maladroit. Hein, c'est pas du tout le journal tel qu'il est maintenant. Mais il avait néanmoins acquis une certaine notoriété. Et là, on a vu apparaître ce qui allait constituer bientôt la deuxième équipe de Libération. Et dans cette équipe de Libération, moi qui connaissais bien le métier, j'ai vu venir les futurs petits journalistes. Et évidemment, par rapport aux gens qui envoyaient 50 francs et 100 francs, c'était une trahison totale, puisque très très vite, ils allaient remettre la main sur l'information, la séquestrer, la faire rentrer dans les moules les plus conformistes et aller exactement à l'inverse de leur projet.
Mai 1973, voilà ce qu'on lit dans Libération. Le journal annonce sa parution dans les kiosques régulières pour le 22 mai, donc c'est aujourd'hui un anniversaire, puisque nous sommes le 22 mai, et voilà ce que dit Libération. Il laisse dans son stillage un bon nombre de faux départs, cette fois la date est fixée, elle correspond à la réalité, et à moins d'un attentat ou d'une épidémie rue de Lorraine, Libération sera dans les kiosques mardi. En effet, le 22, Libération est dans les kiosques. Alors, j'ai envie de vous demander à chacun, comment vous vivez le fonctionnement régulier, assumé, le journal, difficilement, avec peu de professionnels, tous les jours, dans les premières semaines qui correspondent à cette sortie?
Moi, je peux répondre par le biais de ma fille, qui avait 5 ans à l'époque. Quand elle entendait le mot Libération, elle se levait, elle claquait la porte, elle partait. Parce qu'elle voyait son père, qui se levait à 9h du matin, et qui suivait le journal jusqu'à l'imprimerie à 5h du matin, puis qui repartait à 2h pour la rédaction.
Moi, j'avais suivi les conseils de Benny Lévy, et j'avais pris un appartement avenue Jean Jaurès, dans un quartier ouvrier. Donc j'habitais à 200 mètres du journal, mais je n'étais jamais dans mon appartement. Et je passais 24 heures sur 24 au journal. Et c'était éprouvant, bien sûr, mais en même temps, on commençait à obtenir des résultats. Mais tout se faisait, il fallait apprendre aux gens à travailler, parce qu'on était en tout et pour tout 3 journalistes professionnels.
Vous vous souvenez de qui c'était?
Oui, il y avait Sylvie Marion, qui était une journaliste de radio et de télévision, qui nous avait rejoint courageusement, et un ancien de France Soir, qui s'appelle Gérard Brugeil, mais que j'ai totalement perdu de vue. Donc on y vivait totalement, et ceux qui avaient les compétences essayaient de les rendre les plus opérantes possibles. On voyait arriver les choses les plus invraisemblables, les groupes, mais je sais pas, beaucoup de gens ont lu Flaubert, et il y a une séquence dans l'éducation sentimentale où il parle de la révolution de 48 et il voit arriver les groupes de gens révolutionnés.
Tous les mercredis, je me rappelle, l'après-midi, je faisais venir des femmes en lutte, enfin dans différents domaines, hein, hôpital ou usines, dans les quartiers, etc. Et parfois, il y avait une vingtaine de femmes qui débarquaient dans le journal. Ça correspondait exactement à ce qui était la définition du journal. Bon, Seulement, ils s'attendaient absolument, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont venues que de paysans, ils s'attendaient absolument pas que ça allait se passer comme ça. Et je me rappelle que les hommes installés dans les locaux se sont sentis complètement débordés par l'arrivée des femmes régulières, hebdomadaires. Donc à partir de ce moment-là, je crois j'avais négocié avec les autres pour qu'on puisse avoir une double page, je crois que c'était hebdomadaire. Comme ça, après avoir fait 10 fois cette page, quand on était réunis et les uns et les autres passaient comme ça de temps en temps et qui nous faisaient des remarques désobligeantes, on avait décidé de créer une petite rubrique qui était les insultes sexistes à l'intérieur du journal. Alors, je me rappelle le jour où je suis allée en bas, donc à la maquette pour monter la page avec un garçon, donc qui était responsable du montage. Et il a vu cette rubrique et il m'a agressé physiquement. Il est devenu fou de rage, absolument fou de rage. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, alors Serge Julie va faire son travail de directeur. Donc je suis montée, j'ai dit à Serge, écoute, il y a un conflit en bas. Je compte sur toi pour me défendre. Alors Serge Julie est en effet descendu et avec son habileté habituelle, il a essayé de l'arranger les choses.
Combien de temps êtes-vous resté à Libération?
Alors je suis resté. Bon, il y a eu plusieurs conflits, des petites scissions, des grandes scissions, etc. Puis il y a eu une grande scission et à ce moment-là, je n'étais pas à Libération. C'était en 75, non? C'était quand il y avait la révolution des œillets au Portugal. Et j'avais très envie d'y aller. Et c'était dans le journal, enfin, on n'était pas très chaud. Il y avait Pierre Audibert qui voulait faire le voyage avec moi. Parce que ce n'était pas une révolution prolétarienne. Bon, c'était des militaires. Et mais enfin, nous, à distance, on sentait bien que ce n'était pas un putsch militaire, que c'était d'ailleurs des militaires qui étaient très inspirés par les idées de 68 et on avait envie de voir sur place. Donc on est parti un peu contre l'avis du journal, on est parti au Portugal en téléphonant nos reportages. Et c'est pendant notre absence qu'il y a eu une grande réunion de scission à laquelle donc je n'ai pas participé. Quand nous sommes rentrés avec Pierre Audibert, nous avons été informés, nous avons choisi notre camp. Donc nous sommes partis avec ceux qui sont partis à ce moment-là.
L'une des grandes préoccupations de l'époque, à la suite de 68, c'était la question du pouvoir. Vous vouliez donner la parole aux gens, vous ne vouliez pas que le pouvoir s'exerce de manière unique, vous vouliez que ce soit un pouvoir collégial. Comment ça se passait quotidiennement ?
Ça se passait pas bien, parce que dans un pouvoir collégial, c'est le plus malin qui manipule les autres. Bon, tout le monde sait ça. Bon, ça, c'était une partie des choses, c'est-à-dire la cuisine intérieure. Bah, tant bien que mal, il fallait quand même sortir le journal. C'est le contenu du journal qui en souffrait et sa qualité. Mais ce qui était le plus important, en tout cas à mes yeux, c'était la source de l'information, donc c'était l'extérieur. Moi, je voulais, et c'était dans l'esprit du journal, que chaque journaliste qui parte à l'extérieur fonde autour de lui son petit comité de rédaction et que c'était à partir de ce petit comité de rédaction que son article était fait. Et alors ce miracle s'est parfois produit. Il s'est produit en particulier à l'IP. Et les premiers qui sont allés sur la grève de l'IP, qui était une grève sauvage très dure, très longue et très inventive, ont effectivement pu couvrir l'événement en faisant cette jonction avec des gens qui était dans un moment de libération de l'esprit, si on peut dire. Voilà, c'est comme ça que le journal, à mes yeux, aurait dû fonctionner.
Sur la question du pouvoir, il y a au fond deux choses qui sont présentes. Il y a à la fois une volonté extrêmement généreuse de monter des choses, mais pas forcément pour en faire un instrument de son propre pouvoir. C'est valable à la fois pour chaque individu et à la fois pour l'ensemble de la collectivité. Et en même temps, il y a quelque chose de pas très sain là-dedans. C'est qu'à un certain moment, ça revient à ne pas prendre ses responsabilités. Je me souviens très bien que dans les premiers conflits qui apparaissaient avec Serge Juli, qui lui avait une autre orientation, une autre optique sur le journal, et qui était extrêmement clair. Mais Juli n'a jamais été hypocrite sur ce qu'il avait l'intention de faire du journal. C'était effectivement d'exercer un pouvoir. Alors, de l'exercer d'une façon concentrée, c'était l'aspect négatif de sa position, mais en même temps de prendre ses responsabilités.
Jean-Claude Vernier, à quel moment vous avez commencé à vous désinvestir de cette aventure ?
Non, je m'en suis désinvesti au moment où j'en suis parti. Parce que jusqu'au moment où je me suis aperçu que finalement, ce qui pour moi était l'essentiel de l'ossature vivante du journal, à savoir les comités Libération, vers le mois de juin 1974, il n'en restait plus rien. C'était plus que des petits groupes formels de vendeurs, donc le projet n'avait plus beaucoup d'intérêt. Donc je ne me suis pas du tout désinvesti de Libération. J'ai mis du temps à me désinvestir de l'échec, c'est vrai. Et en fait, j'y suis jamais arrivé. C'est-à-dire que si aujourd'hui, encore une fois, des gens sont prêts à partir sur une aventure, je suis prêt à partir avec eux.
Et vous, Jean-René Leu ?
Moi, je me suis désinvesti, je dirais, plus doucement que Jean-Claude. Mais c'est peut-être à cause des responsabilités techniques que j'avais. J'ai d'abord commencé à former quelqu'un qui puisse me remplacer pour diriger le schéma technique. Et j'ai écrit un peu, parce que je n'avais pas écrit une ligne dans les premiers numéros de Libération. Et c'était quand même une expérience que je voulais faire. Et ça m'a apporté quelques satisfactions. Et après, quand j'ai compris que le projet du journal m'échappait totalement, que ça allait devenir autre chose, qui d'ailleurs pouvait devenir une chose intéressante. La vie de Libération a longtemps été indécise. Je trouve que jusqu'en 81, ça a été un journal passionnant. Il faut dire les choses. Après, il est plus ennuyeux. Je suis désinvesti en me rabattant sur le front culturel, parce qu'on avait déjà cette idée en tête en fondant Libération que le culturel était plus important que le politique. Mais en particulier, j'étais passionné de cinéma. Je trouvais que les premiers articles sur le cinéma dans Libération étaient absolument nuls. Donc je suis allé chercher ce qui restait de l'équipe des cahiers du cinéma et je leur ai dit de venir et de faire avec moi la page cinéma dans Libération. Voilà, j'ai collaboré comme ça de manière extérieure pendant un an. Il faut dire que moi, je suis parti de Libération exténué, parce que ça a été vraiment, je ne parle pas de l'effort psychique, mais un effort physique seulement considérable, et qu'il était temps que j'en parte. Et en plus, il y a eu des moments très drôles, très amusants dans les débuts de Libération, mais beaucoup de moments dramatiques, et humainement dramatiques, parce que la lutte pour le pouvoir est souvent impitoyable, et il y a des gens assez jeunes qui ont été broyés. Et il y avait un médecin parmi l'équipe, et un jour il m'a pris à part, il m'a dit « Mais tu sais, il est temps que tu partes ». Et bon, ça a été la parole décisive. Le lendemain, j'ai dit « Je m'en vais, je pars ».
Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again, we'll meet again.
Je crois qu'aujourd'hui, rêver d'une aventure de communication par la presse écrite et notamment par la presse quotidienne, c'est un rêve d'avant-garde. C'est pas du tout, le quotidien n'est pas quelque chose qui est destiné à disparaître.
Il y avait une urgence, aujourd'hui aussi. Mm. Quand le jour a vu le jour, moi je ne l'ai plus vu.
Jean-Christophe Nautias, fondateur du Jour.
Quand je me suis retrouvé dans cette aventure, j'ai bien compris qu'il y a quelque chose qui me dépassait. Je ne pense pas que j'y serais arrivé tout seul. Enfin, si c'était à ce point mon désir, mon fantasme, je ne pense pas que j'y serais arrivé. Je pense qu'il a fallu qu'autour de moi, très très vite, des énergies, des accords, des désirs partagés se retrouvent pour que ce projet existe.
Et l'argent dans cette histoire
L'argent, ça a été tout de suite pour moi une envie de mépriser. Je pense que j'étais à l'époque nourri, je relisais fréquemment la biographie de Bov Meri, qui était passionnante parce que justement elle montrait bien à quel point on peut faire du bon journalisme en dehors de l'argent. Et d'ailleurs, je pense que chez Bov, c'était un a priori constant de se méfier de l'argent. Et je pense que ça lui a quand même permis de faire un bon journal. Donc on a dû partir tout petit. Et finalement, dans la vie, c'est bien de s'engager en se disant qu'on est à un moment donné un bébé, puis un adolescent, puis peut-être un jeune adulte. Et puis voilà. C'est bien de grandir et de grandir sans se dire qu'on l'a fait grâce à un chéquier. Mm-hmm. Notre proximité avec Libé, elle existe peut-être dans cette pertinence par rapport à la rue, à ce qui se passe dehors. Donc dans ce côté œil vérité, caméra vérité, le micro-trottoir, l'aspect de proximité qu'on peut avoir avec les gens.
Que peut apporter le jour de nouveau à la presse ?
Bon, visiblement, on est en train d'apporter à nos confrères à la fois un petit coup de vieux, mais aussi un petit coup de jeune. C'est-à-dire que ça les oblige aussi à se secouer un petit peu. Et à retourner eux aussi sur le terrain.
Le numéro 1 du jour est paru le 25 mars 1993. Il s'en vend en moyenne 20 000 exemplaires quotidiennement. Le tirage global est de 40 000 exemplaires.
La complicité, aujourd'hui, elle est formalisée par le fait qu'on a une capacité, au moins déjà une fois par semaine, de publier des textes qui sont très étonnants, qui nous viennent des lecteurs. Certains écrivent comme maintenant étant les correspondants, puisqu'on a lancé cette idée-là de représenter vous toi-même, qui est une façon de dire aux gens, mais n'attends pas qu'on te le dise ou qu'on te dise qui tu es, dis ce que tu fais, ce que tu es. Et donc on a, dans cette rencontre avec les lecteurs, aujourd'hui, gagné quelque chose, parce que ces gens nous écrivent et nous écrivent beaucoup. Et on ne sait pas qu'on ait du mal à choisir, mais enfin c'est vrai qu'il y a suffisamment pour toutes les semaines se dire, bon, il en faudrait peut-être même encore deux de plus. Ça, c'est, oui, c'était un des enjeux, et oui, on est en train de le gagner.
Ça, c'est au moins un parallèle avec Libération, c'est redonner la parole au peuple. Autrefois, on disait ça.
Oui, voilà, on nous a expliqué, parce que c'est vrai que nous, on n'a pas vécu cette guérilla, groupuscule, parti politique de l'époque. On sait ce que c'est, on a pu éventuellement, pour certains, avoir des intérêts particuliers là-dessus, c'est pas mon cas. Il y a eu des parallèles de fait avec Libé sur, oui, on donne la parole, mais tous les journaux ont toujours donné la parole, juste à certains moments, ils ont oublié de le faire.
Comment est-ce que la Valle, ce monde dans lequel vous vivez, dans lequel nous vivons, il vous agace ou il vous amuse ?
Quelquefois, il m'amuse dans la mesure où on a une formation intellectuelle qui vous dispose à l'humour et à l'ironie, mais pour ce qui est de m'agacer, il fait plus que m'agacer. Il me révolte authentiquement. Pourquoi ? Je l'ai déjà dit 100 fois, parce que c'est le monde de l'argent, de la rentabilité, du profit, de la technique toute puissante et proliférante, en quelque sorte, comme un cancer, que l'homme est écrasé, que l'homme est endormi. C'est le pire, d'ailleurs. Il est peut-être pire d'être endormi que d'être écrasé. Écrasé, endormi, et tous mes voeux, tous mes souhaits, toute mon action tendent à ce qu'il se réveille et brise cet appareil dont on peut dire qu'il se l'est mis lui-même, mais dont il commence à se repentir singulièrement.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown.
Grand Angle, 1973, la naissance de Libération ou les limites du rêve. Une émission de Marie-Odile Delacour, avec la participation de Jean-René Huleux, Jean-Claude Vernier, Claude Mauriac, qui évoquait son ouvrage intitulé Le temps immobile, volume 3, aux éditions Grasset, Maren Sell, le service des archives de Libération, et Jean-Christophe Notias. Groupe de réalisation, Brigitte Aléo, Jean-Marie Charon,
Édouard Campras et Pierre Guérineau.
Cette émission a été diffusée la première fois le 22 mai 1993 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.